Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour mesdames, messieurs. Je vous présente mes meilleurs vœux, bien entendu, puisque c'est la première leçon après le Nouvel An. Et je vous rappellerai que nous avions terminé l'année dernière par établir un premier élément qui nous permet de comprendre la figure apparemment composite des Favashi. C'est que la notion de âme préexistante qui va inclure l'âme des ancêtres est le produit d'une spéculation théologique. Cette spéculation repose sur l'idée que la faculté de choix sacrificiel des hommes a joué un rôle de tout premier plan dans la cosmogonie, un rôle initial dans la cosmogonie. Les trois récits cosmogoniques du Yashta 13 en sont évidemment la relation. Et cette spéculation-là, dans l'Avesta récent du moins, elle est indissociable de la doctrine des millénaires. Je ne parlerai plus de doctrine des millénaires parce que je crois avoir assez bien insisté sur le fait que le chiffrage en millénaires ou en siècles est insuffisamment attesté dans l'Avesta. Mais du moins, nous pouvons parler à coup sûr d'une théorie des quatre âges du monde, l'âge du monde immatériel, l'âge du monde matériel immobile, enfin l'âge du monde matériel mobile, qui est celui du temps du mélange et qui est composé lui-même de deux trimillénaires, celui qui précède celui du début de l'humanité des nations iraniennes, qui précède l'apparition dans le monde de Zarathoustra et de ces techniques religieuses définies par le mot Daïna. Nous nous trouvons, bien entendu, nous, dans le dernier trimillénaire, qui n'est pas achevé, puisqu'il doit s'achever par la fin du monde. Alors, donc la notion de préexistence, l'inclusion des âmes des ancêtres à l'intérieur d'une horde d'âmes humaines, mais dont certaines sont celles d'hommes vivants, ou bien d'hommes encore à naître, me paraît avec cela, la fonction apparaît assez clairement. Il nous reste bien sûr du chemin à faire. Il nous reste du chemin à faire et il nous faut à présent tenter d'expliquer pourquoi cette horde d'âmes préexistantes assume une fonction guerrière et une fonction, comme dirait Dumézil, mais il nous faudra définir exactement en quoi cela consiste, une fonction de service des eaux. Jusqu'ici, dans les récits cosmogoniques que nous avons examinés, ces deux fonctions sont relativement évanescentes. Pourtant, elles sont bien présentes déjà. La fonction guerrière se manifeste par l'insistance mise sur le fait que les Favashi doivent être appelés. C'est l'adjectif sanskrit havya. Havya, qui est en avestique Zaoya. Il faut les appeler. Il faut les appeler et il faut les appeler dans des circonstances guerrières. Ce sont les noms, les différents noms que le texte donne au combat et dont je vous ai parlé la fois dernière. À cela se limite la fonction guerrière des Favashi dans les récits cosmogoniques. La fonction service des eaux, elle est là aussi, car je vous ai lu les passages cosmogoniques et vous avez dû remarquer, j'ai insisté sur ce point, que c'est la partie liquide du monde qui est envisagée dans la mise en ordre auquel les Favashi participent. Bien sûr, la terre et les eaux qui coulent sur la terre, mais aussi la rivière céleste Anahita qui vient remplir le réservoir céleste des eaux. Bien. Où se trouve l'expression la plus claire de la fonction guerrière et l'expression la plus claire du service des eaux? C'est dans ce que j'appellerai le passage interstitiel entre les deux premiers récits cosmogoniques. Le premier s'achève avec la strophe 29 et le premier, la strophe 29 est la dernière strophe du premier récit cosmogonique et la strophe 53, la première du second récit cosmogonique. Dans cet intervalle, donc de la strophe 30 à la strophe 52, on peut considérer qu'il y a quatre parties qui sont fortement caractérisées formellement. La première partie est composée de chapitres courts, très courts, même, on ne peut pas faire plus court, le plus souvent une seule strophe. Cette partie s'étend de la strophe 30 à la strophe 39. Ensuite, réapparaissent des cardés plus longs à partir de la strophe 40. Il y en aura trois. Chacun de ces trois cardés semble traiter d'un thème particulier. Nous allons y venir. Alors, donc, quatre parties, la zone des cardés courts et les trois cardés subséquents. La première partie, donc la zone des cardés courts, débouche sur, comme en conclusion, après, dans un climat relativement guerrier, sur une petite histoire. C'est très intéressant parce que les narrations des exploits des divinités sont d'une rareté insigne dans l'Avesta. Madame Jamison a fait la réflexion, il n'y a pas très longtemps encore, elle l'avait fait dans les conférences qu'elle a tenues ici, que c'était une grande différence entre le Veda et l'Avesta, que l'absence dans la littérature avestique d'une littérature qui consisterait à commémorer les exploits des dieux. Donc il n'y a pas de petite mythologie succincte, n'est-ce pas ? Bien sûr, il y a une grande mythologie d'ensemble qui est une histoire du monde, nous en parlons depuis le début de ces cours, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas de petits récits où les divinités interviennent dans une histoire qui ne concerne en définitive que quelques individus. Je ne suis pas sûr que cette différence soit valide. Je crois que Madame Jamison, ici, utilise l'argument a silencio. Évidemment, nous n'en avons pas conservé, mais il y en a. Ce genre a donc existé. Et il se manifeste de la manière la plus fréquente dans le Yasht 5 à la déesse Anahita. Le catalogue des sacrifiants Anahita ne comprend pas seulement les grandes figures mythiques du passé, ces premiers hommes que nous connaissons tous, Hima, Traitauna, Kursaspa. Non, il y a aussi une multitude de petits sacrifiants secondaires qui demandent aussi une faveur personnelle à Anahita. Et dans ce cas-là, c'est la grande différence avec les sacrifiants, je vais dire classiques, n'est-ce pas, les grands sacrifiants de l'histoire mythique du monde. Eux demandent une faveur, bien entendu, et la déesse n'intervient pas. Elle l'accorde, la faveur, mais cela reste dans l'abstrait. Ils obtiennent de réaliser ce qui fait, au fond, leur rôle, leur importance dans l'histoire du monde. Tandis que ces petits sacrifiants, je dirais, secondaires, qui émaillent la liste des sacrifiants, l'ambiance est tout à fait différente. La déesse intervient en personne dans le cours des choses. Elle assèche le cours d'une rivière pour permettre à un tel d'échapper à ses ennemis, ou bien elle ramène sur terre celui que ses ennemis ont projeté dans la rotation solaire. C'est donc une intervention directe de la déesse. C'est la commémoration des exploits des dieux est un genre qui a certainement existé dans la littérature mazdéenne, dans la littérature avestique, mais nous n'en avons pas conservé beaucoup de témoignages. Ici, nous en avons un. La zone des cardés courts se termine par un épisode où une tribu iranienne, l'Ekshtavi, c'est un patronymique, sont vainqueurs d'un peuple qui s'appelle Danu et qui est qualifié plus généralement de Toura. Comme très fréquemment, ces exploits divins ne sont pas fortement circonstanciés. Ceux d'entre vous qui connaissent la littérature védique savent que c'est le problème classique des hymnes aux ajvines. Les hymnes aux ajvines du Rig Veda ont pour problème philologique pour nous particulier d'être entièrement constitués de catalogues d'exploits divins, intervention des ajvines dans toutes sortes de situations, mais jamais on ne comprend réellement ce qui se passe, tellement le mythe est allusif. C'est pas une procède par allusion. C'est la même chose ici. Or, il y a dans cet épisode d'Ekshtavi, ce n'est pas très décisif ce que je vais vous dire, mais je vais tout de même faire une remarque assez curieuse parce que c'est une chose que l'on n'a pas relevée et je vous avoue que je ne sais pas très bien comment, l'interpréter. Mais il y a un curieux jeu sur les nombres. Dans le mythe qui nous est raconté ici. Ekshtavi, pour le traduire par un nom français, ce sont les fils d'eux, c'est un patronymique, ce sont les fils de Sixte, les fils du sixième. Les fils du sixième. Car il est apparemment traditionnel dans l'onomastique iranienne de désigner ses fils par son rang de naissance, comme les Romains, n'est-ce pas ? Quartus, Quintus, Sixtus, etc. C'est une pratique onomastique tout à fait courante. Or, ces Ekshtavi, ce sont les fils du sixième. Quant au Danu, Tura, le nom Danu, c'est une autre question, ce sont des noms de démons aussi dans le Rig Veda, avec l'accentuation védique. Les Danu sont des démons dans le Rig Veda, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont des démons, bien sûr, dans la tradition mazdéenne. La mère de Vertra, dans le Rig Veda, s'appelle Danu. Un nom à résonance démoniaque, mais le nom de cet ennemi national des Iraniens traditionnel qui apparaît dans l'Avesta, les Tura. Les Tura, or, ces Danu appartiennent à la nation Tura, le texte le dit explicitement, est un mot qui signifie « quatrième ». C'est un mot qui signifie quatrième. Donc il y a un combat des sixièmes contre les quatrièmes. Ce n'est pas rare dans l'Avesta, ce petit jeu, mais je ne vois pas de possibilité avec le matériel que nous avons de donner une interprétation globale et mythologique tout à fait valide de ces détails. Souvenez-vous, il y a 2 ou 3 ans, nous avions parlé du Homestome, et le Homestome commence par évoquer les premiers pressureurs archétypiques du Hauma. Bah, donc, il les énumère par leur rang, premier, deuxième, troisième. Or, ici, les noms jouent le nombre, interfère avec le nom, parfois, pas toujours. Le premier pressureur, Pauiria, premier pressureur, il obtient un fils, Yima. Oui, un fils, mais dont le nom signifie jumeau. Donc il obtient 2 fils. Le deuxième pressureur est un certain Aptia. Il obtient un fils qui s'appelle Traitauna. Traitauna, si nous le rapportons à l'onomastique indienne où nous trouvons un roi Dvaitavana, doit signifier le fils du vainqueur du troisième. Donc le troisième apparaît dans le nom du fils du deuxième pressureur. Le troisième pressureur archétypique est incertain. Il est le troisième et il s'appelle troisième. Il porte le nom de son rang, Trita. Et lui aussi obtient 2 fils, Kursaspa et Urvakshaya, qui sont des jumeaux, donc 2 fils. Le quatrième pressureur, c'est le père de Zarathustra. Zarathustra est donc le fils du quatrième pressureur. Or, dans l'histoire, dans la légende même de Zarathustra, on doit relever un jeu sur le quatrième. Vous savez que dans l'ordre du catalogue des sacrifiants, Zarathustra est inséré entre l'avant-dernier et le dernier Kavi. Ces héros, cette série de 9 héros qui portent le titre de Kavi, qui réfère, si nous nous en mettons à la tradition indienne, à la pratique de la poésie, où on a voulu reconnaître des rois, ce qui n'est pas certain, mais Zarathoustra s'insère entre le 8e et le 9e. Il figure au 9e rang. Mais les Kavis qui le précèdent, les 8 Kavis qui précèdent Zarathoustra, affrontent tous la nation Toura. Et c'est le Kavi Haosrava, le 8e d'entre eux, qui élimine définitivement la nation Toura. Donc, ce Kavi élimine la nation qui porte le nom de 4e et permet ainsi l'œuvre du 9e personnage, qui est Zarathoustra, qui est le fils du 4e précureur. Il y a comme une sorte de substitution de 4e dans la légende de Zarathoustra. Voilà des faits bruts. Je n'ai pas suffisamment de matière, n'est-ce pas, pour tenter une interprétation ici, n'est-ce pas, sur ce type de matière. Si vous avez des idées, sont les bienvenues. Mais nous avons un petit mythe dans le catalogue des exploits, pour en venir à notre commentaire général. Et dans cette zone d'écart des cours, la fonction derrière est particulièrement accusée. On trouvera ici, pour donner quelques exemples, 3 strophes particulièrement frappantes à cet égard, n'est-ce pas, dans la strophe 33, où on trouve un grand rassemblement de notions guerrières. Elles livrent combat, les Fravashi, Arzaya. Elles sont sanguinaires. Elles brisent l'ennemi, elles leur coupent les bras, elles les abattent dans l'assaut. Bon, c'est assez clair. Strophe suivante, strophe 34. Nous trouvons 2 notions. Elles donnent 2 forces qui sont en général associées, et dont la deuxième est un peu énigmatique. Je vous les donne, c'est un problème tout à fait classique de la sémantique des notions mazdéennes dans la Vesta. La première est bien connue, elle donne à ceux qui leur sacrifient le vertrakna, c'est-à-dire le fait de briser l'obstacle, et puis, curieusement, mais cela doit avoir une résonance guerrière aussi, puisque cette notion est qualifiée de vanaïti, c'est-à-dire victorieuse, et uparatat. Préverbe upara, ça pourrait être du sanskrit, il n'y a pas de modification phonétique entre les deux langues. Ça veut dire 2 choses l'une. Ça veut dire la contiguïté, ce qui se trouve au contact l'un de l'autre, la contiguïté. Alors, on pourrait faire l'hypothèse guerrière à partir, n'est-ce pas ? L'hypothèse guerrière voudrait qu'il s'agisse, par exemple, du corps à corps. Lorsque la résistance de l'ennemi est brisée, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire au corps à corps. On l'a expliqué comme cela. Mais nous avons d'autres indices. Il y a une deuxième possibilité sémantique. À côté de la contiguïté, nous devons aussi faire l'hypothèse de l'ultériorité. Alors, ça devient beaucoup plus compliqué. Pas mettre en rapport le brit, l'obstacle et l'ultériorité, ça devient conceptuellement plus difficile. Là aussi, si vous avez une idée, elle sera la bienvenue. Or, nous ne pouvons pas négliger cette hypothèse, car 2 entités divines énumérées dans certaines litanies apparaissent complémentairement l'une de l'autre, non plus le brit, l'obstacle et uparatat, mais parvatat et uparatat, c'est-à-dire là, très clairement et de manière très sûre, les mots signifient on oppose l'antériorité à l'ultériorité en tant que notion divine. Voilà, la coloration guerrière de ces 2 notions relève en définitive de la qualification de victorieuse par Vanainti. Alors oui, la 39e strophe est aussi très claire, elle est aussi franchement brutale, n'est-ce pas, les Fravashi, mais c'est une formule convenue que l'on utilise pour d'autres divinités. Elles enfoncent le centre de l'armée ennemis et elles mettent les ailes en déroute. Mais la formule est convenue. Bien, nous avançons. Autre chose va se produire dans le quartet subséquent, le premier des quartets subséquents. Je vous donne les références, c'est le quartet 11, strophe 40 à 44. Donc nous repassons à des ensembles de strophes qui ne présentent pas naturellement la même longueur que ce que nous avons rencontré pour les récits cosmogoniques, mais qui devient plus appréciable. Or, ici une ambiance, une coloration guerrière accusée également, mais nous débouchons sur l'autre fonction que nous devons élucider et qui se combine avec la fonction guerrière, c'est celle de service des eaux, que nous disent les strophes 42 et 43. Bien, 43 et 44, pardon. Les Fravashis lâchent littéralement. Je vous donne le verbe, c'est important. C'est le verbe harz. Pour ceux d'entre vous qui font du sanskrit, surge. Elle lâche entre le ciel et la terre, satavaisa. Satavaisa. C'est un nom propre. Je vais le commenter. Il semble que cela signifie celui qui a sang, sata, parent clanique. Vaisa est un dérivé du nom du clan Vis, Vish en indien. Or, quoique le texte ne soit pas très explicite, on ne sait pas quelle activité particulière va se livrer Satavaisa, mais nous savons par ailleurs. Nous le savons par le Yashte 8, l'étoile Tishtria. Ce Satavaisa collabore à la chute de l'eau sur la terre. Le texte le dit, ce n'est pas une simple constatation. Il est tatapum, il fait tomber l'eau, il fait pousser les plantes, ce qui est la conséquence, bien sûr, de la chute de la pluie. Or, ici, nous sommes renvoyés par ces deux strophes au mythe de l'étoile Tishtria. Consacré un cours. Certains d'entre vous peut-être s'en souviennent encore, mais c'est déjà lointain, c'était en 98-99, au Yasht de l'étoile Tishtria, parce que dans les années qui avaient précédé, un jeune savant italien, Antonio Panaino, avait consacré sa thèse de doctorat à une édition et à un commentaire du Yasht 8 à l'étoile Tishtria, et j'avais voulu en faire une sorte de compte-rendu devant vous. Mais le mythe de Tishtria, si nous voulons comprendre en quoi le rôle des Fravashis consiste dans la distribution de l'eau, nous devons nous le remémorer quelque peu. Tishtria est une étoile. Son nom signifie le compagnon des trois étoiles. Ceux qui ont de bonnes connaissances d'uranographie l'identifie comme l'étoile Sirius. Or, cette étoile est censée jouer un rôle essentiel dans la production de l'eau. C'est une chose étrange, n'est-ce pas? Conception que le masdéisme peut se faire du ciel étoilé. N'est-ce pas, les étoiles. Que représentent les étoiles dans les conceptions masdéennes? Eh bien, d'abord, les étoiles évoquent trois choses dans les conceptions masdéennes. D'abord, les flèches. Elles sont comparées à des flèches. Une étoile, quelque chose qui, d'une certaine manière, ressemble à une flèche. Or, si nous collectons les passages qui établissent l'équivalence entre l'étoile et la flèche, il est clair que le point de contact entre les deux de réalité, c'est la vibration de la flèche et le scintillement de l'étoile. La flèche aussi évoque, dans les conceptions masdéennes, quelque chose qui a un rapport avec l'unité nationale. On sait, j'ai déjà commenté ce mythe, lié d'ailleurs au mythe de Tishtria, de l'archer Urksha, dont le nom signifie « ours », et qui, pour les nations iraniennes, récupère un territoire en envoyant sa flèche, depuis une montagne jusqu'à une autre montagne, étant entendu que la trajectoire de la flèche ouvre un territoire aux Iraniens. Or, c'est un mythe qui a eu une certaine, importance dans la mentalité nationale iranienne, puisque un roi sassanide, en réalité Ardashir, le roi Ardashir a fait faire une inscription où il explique qu'il a, à tel endroit, à l'endroit même où ça s'est produit, qu'il a lancé une flèche d'une manière particulièrement efficace, qui a eu une trajectoire très longue. Et il tient à commémorer cet exploit parce que, bien sûr, c'est la commémoration même de l'exploit de Rukhsha. Or, on a attiré l'attention aussi, je crois, il y a quelques années, sur le fait que les rois achéménides faisaient aussi de la trajectoire des armes de jet une sorte d'affirmation de leur de la possession des territoires, puisque Darius dit dans une inscription que la lance de l'homme perse est allée loin. Il y a certainement dans cette simple affirmation, ce n'est pas de la poésie gratuite, Darius ne fait pas véritablement de la poésie dans ses inscriptions, mais c'est la référence à l'exploit de Rukhsha qui est le premier à ouvrir un territoire national aux nations iraniennes par, par son tir à l'arc. Donc la trajectoire des flèches évoque une donnée de l'appartenance nationale. Autre chose, autre résonance des étoiles. Les étoiles sont afchitra. Elles sont afchitra. Oui. Certains d'entre vous savent que le mot chitra pose un délicat problème parce qu'il est extrêmement controversé à l'heure actuelle. Enfin, nous avons Madame Hinze, au congrès iranologique de Vienne, il y a un an, où M. De Jong, si vous vous en souvenez, ça s'est passé ici même, n'est-ce pas, ils sont revenus sur le problème, et continuent à tenir pour convaincante la vieille, je crois que Xavier Tremblay aussi, lors d'un séminaire il y a un an ou deux, avait aussi été resté fidèle à cette hypothèse de Bartholomée, selon laquelle il existerait un chitra 2. Il y aurait deux mots chitra. Le premier, chitra, est par sa formation clairement un adjectif. Racine chit. C'est remarquable, caractéristique. Quelque chose qui se voit d'emblée, qui saute aux yeux. C'est le chitra, l'apparence immédiate. Mais le deuxième chitra, dont Bartholomée fait, en dépit des règles de formation, un substantif, signifierait l'origine. L'origine. Le mot le plus évident, pas pour établir ce sens-là, est l'épithète qui est donné à la lune. La lune est Gau Chitra. Gau, la vache, Chitra. Hypothétiquement, Chitra 2, c'est-à-dire qui détient l'origine de la vache, ou là, si vous voulez, la semence de la vache. Donc, on aurait à faire une représentation mythologique qui considérerait que l'origine de certains éléments de la cosmogonie, vous savez que la vache est un élément important de la cosmogonie, nous l'avons vu, n'est-ce pas, trouve son origine quelque part dans l'univers en dehors de la Terre. La vache dans la Lune, l'eau dans les étoiles. Cela, c'est la vieille hypothèse de Bartholomée. On peut la mettre en doute. On a objecté à Madame Hinze à Vienne, nous avons été quelques-uns à lui objecter, que Gau Chitra peut, pour rapporter la Lune, peut se comprendre comme la Lune qui semble de lait. La Lune qui semble de lait. Avec cette idée que la Lune est semblable à une goutte de lait dans le ciel, éventuellement. Alors, Nous débouchons de cette manière sur la régularité grammaticale la plus absolue, hein, la plus absolue, puisque normalement, nous avons affaire à un adjectif de base, donc gauchitra, si je traduis littéralement bahouvrihi, pour être clair grammaticalement, ça veut dire qui a la vache pour caractéristique. Avec une autre interprétation possible que j'ai déjà défendue devant vous, je pense, c'est que la vache serait pourrait être aussi une interprétation des taches de la lune, n'est-ce pas ? Donc la lune est caractérisée par cette apparence de vache que l'on croit apercevoir à sa surface. De la même manière que les Indiens, d'ailleurs, n'est-ce pas, appellent la lune Shashin, c'est un nom possible de la lune en sanskrit, c'est-à-dire celle qui possède un lapin. Hein, ce lapin étant l'interprétation des taches lunaires. Donc nous avons des équivalents à faire savoir. Si c'est de cette manière, il faudrait admettre que les étoiles donnent l'apparence de la pluie, la chute de la lumière donnant l'apparence de la pluie. C'est une hypothèse peut-être, mais en tout cas, ça classifie les étoiles d'une certaine manière, car il y a trois types de corps célestes selon les représentations mazdéennes, sans parler de la Lune et du Soleil, qui sont autre chose. Ces corps célestes, il y a bien sûr les planètes. L'Avesta n'en parle jamais. Jamais. Il n'y a aucune mention des planètes dans l'Avesta. C'est le silence absolu sur les planètes. Les étoiles, elles sont Avchitra, ou bien elles détiennent l'origine de l'eau, ou bien elles ressemblent à de la pluie. Et d'autre part, elles sont démoniaques, ce sont les étoiles filantes. Les étoiles filantes sont démoniaques. Elles jouent un rôle, d'ailleurs, dans le mythe de la distribution de l'eau. Elles sont démoniaques, et le nom qui leur est donné, ce sont les étoiles vertes. Elles ressemblent à des vers, les étoiles vertes. Kerma, le vert. Donc il y a une opposition entre Avchitra, quelque chose à voir avec la pluie, et Kerma, le vert, dans la classification des corps célestes. Enfin, les étoiles, nous y venons, parce que c'est ce que le mythe de Tishtria nous raconte, détiennent des capacités de métamorphose. Elles peuvent se muer en quelque chose comme un animal bien connu, comme une vache, un cheval, ou un homme, elle se métamorphose. C'est d'ailleurs le cas de Tishtria. Alors, l'histoire de Tishtria que raconte le Yasht 8, c'est l'histoire du mécanisme saisonnier qui amène l'apparition des pluies. D'abord, l'étoile Tishtria se lève, elle connaît ce qu'on appelle en astronomie, son lever héliaque, c'est-à-dire qu'elle apparaît dans le ciel en même temps que le soleil, au solstice de juin. C'est-à-dire à l'époque, dans le cadre iranien, probablement, de la plus grande chaleur et de la plus grande sécheresse aussi. Or, la pluie, comme on l'a observé, ne tombera, évidemment, ça dépend des régions d'Iran, et puis nous ne savons pas ce qu'il en était, nous ne savons cela que pour aujourd'hui, nous ne savons pas quelle était la situation atmosphérique il y a bien sûr 3000 ans. Hein. Mais normalement, les pluies tombent vers la fin septembre. Hein, et elles atteignent leur apogée au mois de novembre, c'est ce que nous savons. Mais la situation de chaque région peut être particulière. Et puis, il y a les variations avec le temps dont nous devons tenir compte. Mais néanmoins, on voit bien ce dont il est question. Il faut qu'entre le moment où l'étoile apparaît avec la vigueur apparente la plus forte, et le moment où la pluie va tomber, on dégage un grand espace de temps. On va devoir meubler ce temps de toute une histoire. Il ne sera pas facile de faire tomber l'eau. Il faudra beaucoup, beaucoup de procédures pour qu'elle puisse enfin arriver sur le champ des hommes. Il y a donc tout un espace de temps que l'on va remplir. On va le remplir de procès mythologiques. Et ça permet aussi d'envisager, bien sûr, une différence de saison pour la pluie entre les diverses contrées qui sont envisagées par l'Avesta. Or, donc, Tishtria apparaît dans le ciel de la manière la plus exacerbée vers le solstice de juin. Après son apparition, elle va connaître trois métamorphoses successives de 10 jours. Pendant 10 jours, L'étoile devient un homme à l'âge idéal, 15 ans, hein, selon les conceptions mazdéennes, un homme de 15 ans, l'âge de la nubilité. Puis, 10 jours, il prend la forme d'un taureau aux cornes d'or. Taureau aux cornes d'or. Apparemment, cet homme et ce taureau ne sont pas actifs. C'est sa troisième métamorphose qui sera décisive. La troisième métamorphose revêt cette fois-ci la forme d'un étalon qui est aurusha, c'est-à-dire blanc-rougeâtre, c'est un blanc avec des teintes rougeâtres. Et il va descendre, c'est le verbe, descendre, il va descendre vers le réservoir céleste des eaux, la mer Vurukasha. Donc la mer, c'est un nom neutre, Zraya. Oh, c'est une pièce d'eau, disons. Hein. Je ne sais pas si c'est, ça peut désigner la mer, mais ça peut même désigner une rivière. Or, celle-ci, on dit la mer car son nom propre est Vurukasha. Au vaste bord, Vuru, l'Indien Uru, la mer au vaste bord, réservoir céleste des eaux. Ah oui, descendre, Ava-i. Ava, mouvement vers le bas, et le verbe aller, i. Or, dans ce mouvement, il est intercepté par un rival, un autre étalon, qui lui est noir. Il est noir, il est pelé. Et il s'appelle Apaucha, Apaucha. Rien ne nous dit que cet Apaucha soit la métamorphose, lui aussi, d'une étoile. Sa nature stellaire n'est pas révélée, du moins. Le nom d'Apaucha a fait l'objet de quelques discussions. Il est aussi pas parlé d'étymologie. Il n'y a pas plus de raison de parler d'étymologie pour le nom d'Apaucha que pour le nom d'Efravashi elle-même. Il s'agit d'identifier le mot. Mais il y a quelques possibilités. Ceux d'entre vous qui ont fait du sanskrit pensent que, puisqu'il est question de l'eau et de la fécondité, il pourrait s'agir d'un dérivé de la racine push, fleurir, hein, et avec un A privatif, donc c'est celui qui. Il n'y a pas de floraison de la nature à cause d'Apaucha, n'est-ce pas? C'est un dieu de la désolation et de la sécheresse, un démon de la désolation et de la sécheresse. Mais il y a une hypothèse encore plus frappante que l'on peut faire et qui est parfaite aussi. La difficulté de Push, c'est que cette racine n'est pas attestée en iranien. Aucun dialecte iranien d'aucune époque n'a l'équivalent du sanskrit Push. C'est donc là une difficulté relativement importante. C'est jamais, bien sûr, mais la difficulté est importante. On peut voir dans Aucha, ap, l'eau, et le dérivé Aucha, de la racine ush, indien ush, qui signifie calciné, brûlé. Donc le brûleur d'eau, hein, le démon de l'évaporation, je pense, ce serait une belle interprétation de cet adversaire de. Cet adversaire de l'étoile Tishtria. Donc le démon de l'évaporation, peut-être. Les deux étalons vont se livrer à un combat. Ils vont se battre pendant trois jours, en s'entremêlant les pattes, comme dit le texte, n'est-ce pas? Et après 3 jours, Tishtria est vaincu, prend la fuite. Alors il va se livrer à une plainte, livré à la plainte rituelle que fait aussi Mitra. Si on me donnait, dit-il, un sacrifice avec énoncé du nom, je pourrais avoir vaincu mon adversaire. Et sans doute que cette exigence rituelle est satisfaite, le texte ne le dit pas, les hommes vont sans doute lui offrir un sacrifice, vont sacrifier nominalement à Tishtria, mais aussi les dieux, cela le texte le dit. Ahura Mazda le dit lui-même, pas explicitement, oui, je vais te rendre un sacrifice avec énoncé du nom, et cela te donnera la force de 10 étalons contre ton adversaire, ayant reçu probablement ce double sacrifice humain et divin, Tichtria retournera au combat, qui ne durera pas cette fois-ci, il durera une demi-journée jusqu'à l'heure de midi. Le combat durera jusqu'à l'heure de midi. Et c'est à cette heure-là, au moment donc, où le soleil est au plus haut dans sa trajectoire, il mettra en fuite son adversaire, l'étalon de l'évaporation. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dès lors, la nouvelle descente, cette fois, la descente vers la mer sera accomplie. Tichtria, semble-t-il, d'après une strophe, va agiter l'eau de multiples manières, avec toute une série de verbes, n'est-ce pas, qui signifient faire bouillonner, mais avec des jeux de préverbes, faire bouillonner dans un sens, faire bouillonner dans l'autre, etc. Et l'histoire n'est pas finie avec cette arrivée dans la mer de Vurukesha. Il y a encore beaucoup de travail pour les forces de la pluie. Tichtria va d'abord devoir vaincre les étoiles filantes. Les étoiles filantes. C'est effectivement l'époque des étoiles filantes. Hein. Si nous nous trouvons, vous savez que le mois d'août et le mois de septembre sont l'époque où on observe le plus grand nombre d'astéroïdes. Donc il y a aussi une observation qui correspond aux faits naturels, naturellement, ici. Et à ce moment-là, il passe le relais. Après avoir défait les sorcières que sont les étoiles filantes, il passera le relais. Il passera le relais à Satavahisa. À Satavahisa. Qui est Satavahisa, selon les ouranographes, l'étoile Fomalhaut. L'étoile Fomalhaut. Il y a une autre hypothèse. Je n'ai pas de compétences particulières en ouranographie. La seconde hypothèse, elle est plus jolie, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit juste, bien sûr. Ce serait l'arc-en-ciel. Ce serait l'arc-en-ciel. Je ne sais pas. Ce ne serait donc pas une étoile, mais ce serait l'arc-en-ciel. Et c'est ce Satavahisa que les Fravashis lâchent littéralement entre le ciel et la terre. Ensuite, intervient le vent. Le vent. Le vent qui va pousser les nuages. Les nuages qui se dégagent. Tummo fruto, n'est-ce pas, pousse les nuages, dira le texte. Les nuages qui se sont formés au-dessus du réservoir céleste des eaux. Et enfin, les Fravashis. Les Fravashis vont, dit le Yashtuwit, répartir, donner rempart entre les hommes les pluies qui tombent des nuages. Voilà donc le processus de production de l'eau. Il n'a rien de commun en Inde. Il n'a rien de commun en Inde et on ne peut pas s'en étonner. On ne va pas s'en étonner parce que, tout de même, les conditions de vie sont extrêmement différentes entre l'Inde et l'Iran. Hein. L'Inde et l'eau n'est pas un problème. N'est-ce pas les hymnes védiques sont visiblement marqués par des gens, ont été faits par des gens qui ont été profondément impressionnés par les orages de mousson, hein, que nous ne connaissons en Iran qu'au Béloutchistan, je crois. Dans les territoires iraniens, seul le Baloutchistan connaît un phénomène de mousson. En Iran, le problème est plutôt celui de la sécheresse. C'est d'ailleurs la crainte qui pèse surtout le Yashtuwit. Le Yashtuwit, c'est de savoir si Tichtria va réussir. Car si Tichtria réussit dans son combat à travers toutes ces étapes difficiles, ce sera, comme dit le texte, très simplement, mais la bonne année. Or, la bonne année, c'est l'année où il pleut. Hein. Et s'il rate son coup, s'il est vaincu par son adversaire, ce sera la mauvaise année. La mauvaise année. La mauvaise année, ça signifie à la fois la sécheresse et la famine. Donc, évidemment, le mythe explicateur de l'origine de l'eau et de la pluie ne peut être que différent, quel que soit le passé commun que les deux nations indiennes et iraniennes ont connu, n'est-ce pas ? Je crois qu'ici, l'influence des réalités climatiques a joué un rôle essentiel. En Inde, l'abondance de la pluie à certaines époques de l'année, et en Iran, au contraire, le danger toujours permanent qu'il ne pleuve pas, qu'il ne pleuve pas suffisamment. Donc il ne faut pas essayer de reconstruire. On a essayé plusieurs fois de reconstruire un mythe commun. Il faut tourner en permanence autour de la notion de Vrtra, de l'obstacle. Hein, cet obstacle que le dieu Indra abat pour libérer les eaux prisonnières, mais une fois pour toutes. au début de la cosmogonie, et d'autre part ce Vrtra qui est malgré tout toujours présent dans les représentations avestiques. Il faut briser l'obstacle, mais bon, cet obstacle ne fait plus partie d'un mythe cosmogonique. Lui aussi, il a envahi la durée et du temps, et le bruit définitif de l'obstacle, ce sera à la fin des temps, avec l'ultime sacrifiant. Donc, le mythe commun n'est certainement pas, il ne faut pas chercher à le reconstruire. Mais je voudrais maintenant attirer l'attention. Que se passe-t-il ici ? En fond, en quoi consiste l'action de Tishtriya de manière très précise ? Quel est son rapport au réservoir céleste des eaux ? Au cours d'il y a 10 ans, j'avais voulu l'expliquer parce que Panaïno, son livre est bon. Il est devenu entre-temps un excellent spécialiste de la matière avestique. Je ne vais pas le critiquer, mais il est extrêmement prudent et un peu timide. Visiblement, il l'a remarqué. J'ai travaillé avec lui, je sais qu'il l'a remarqué, il me l'a dit, mais il ne l'a pas écrit. Il a remarqué qu'en réalité, le combat de Tishtriya et d'Apaosha est un combat nuptial entre deux étalons pour la possession d'une jument. Les détails qui permettent de conclure à cela sont faibles, ils sont extrêmement discrets. Mais Panaïno en avait relevé un. La mère, Zraya, est un mot de genre neutre. Or, cette mère prend, elle aussi, dans toute cette histoire, l'apparence d'un cheval. Elle devient Aspokörp, comme Tishtriya ou comme Apaosha. Donc, elle prend le corps apparent d'un cheval. Étant donné qu'il s'agit d'un bas-ouvrier, il est thématisé. Oui, mais lorsque l'on nous parle de cette mère qui a forme de cheval, le mot est féminin. Il n'y a pas d'accord logique entre le genre du nom « mère » et le genre féminin de l'adjectif qu'il reçoit. Panaïno a conclu de cela qu'il fallait comprendre par cette incohérence grammaticale au sens strict, mais on devait la comprendre comme une manipulation conceptuelle pour nous faire comprendre que la mère était une jument, que la mère avait pris la forme d'une jument en réalité. Grammaticalement, c'est déplaisant. Je lui avais déconseillé d'écrire cela, et le résultat était qu'il n'a rien écrit. Il n'a pas écrit qu'en réalité, ce que l'on avait à faire, c'était un accouplement. Un accouplement entre un étalon et une jument. C'est pas ce qui produit l'eau de pluie. Désormais, les choses sont plus claires. J'ai un article de Rüdiger Schmidt bien montré que le verbe avahi, littéralement descendre, c'est le verbe que l'on emploie pour les accouplements d'animaux. Avahi, le chameau mâle qui descend vers les chameaux femelles, c'est pour s'unir à elles, c'est pour s'unir aux chamelles. C'est donc l'union sexuelle des animaux lorsqu'elle commence est définie par le verbe avahi et lorsqu'elle s'interrompt par le verbe usta. Parfois avec paiti usta, littéralement se relever. C'est probablement un vocabulaire paysan, pas un vocabulaire paysan. Il y a encore autre chose de plus frappant. J'ai tenu à le faire figurer au tableau tout de suite. Satavaisa, les Fravashi le lâchent entre le ciel et la terre. Or, une saison avestique est définie comme étant Varshni Hershti. Harshti. Littéralement, c'est la saison où on lâche les béliers parmi les brebis. La saison où on lâche les béliers parmi les brebis. Donc, c'est un autre détail, une autre nuance qui montre qu'il y a en fait accouplement entre l'étoile, les deux étoiles probablement, Tishtriya et Satavahissa, deux étoiles étalons, et la mer jument, qui est la mer, le réservoir céleste des eaux. Ce sont donc les détails qui nous sont donnés ici. Bon, ceci ne nous avance pas, ceci ne nous avance pas beaucoup, pas dans, pour notre propos. Pour notre propos, ce n'est pas décisif. L'intervention des Fravachis consiste selon leur yash, selon l'yash 13, le yash de 8 ne le dit pas, à un moment donné du long processus de production de l'eau, à lâcher une des deux étoiles entre le ciel et la terre, littéralement, comme on lâche les béliers à une certaine saison parmi les brebis. Alors, la troisième de nos quatre parties, revient à l'activité guerrière. C'est l'activité guerrière qui reprend le dessus. Et je crois qu'il faudrait, sur l'activité guerrière, le moment est venu maintenant de peut-être de donner quelques précisions pour les Fravachis. Je voudrais faire quelques remarques avant que nous nous séparions et reprendre ce thème la prochaine fois. Je voudrais toujours attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit une fois, le fait qu'il y a guerrier et guerrier. L'activité guerrière n'est pas uniforme. Dans le yashta de Mitra, qui est peut-être le yashta le plus guerrier de l'Avesta, car le dieu Mitra affronte lui aussi des ennemis, mais qui affronte-t-il? Il y a toujours deux catégories d'ennemis tout à fait spécifiques, qui ne se recouvrent pas. Ou bien il affronte les démons, ou toutes sortes de forces démoniaques, sorciers, sorcières, Apaucha, c'est un démon également. L'activité guerrière antidémoniaque. Mitra s'y livre. Les Fravachis aussi. Elles surmontent les atteintes, les nocivités, comme dit Bécha, des démons. Elles affrontent les démons. Toutes les divinités avestiques, au fond, mènent d'une certaine manière un combat contre les forces démoniaques. Alors, il y a les adversaires humains. Les Danutura, l'adversaire national, iranien contre un adversaire étranger. Pas spécialement démoniaque, mais c'est l'ennemi humain. Ça, c'est un autre type de combat. Elles sont intervenues, le texte nous l'a appris, contre un ennemi national, sans aucun doute. Mais il y a encore autre chose dans les Fravachis. Pour les Fravachis. Et cela, c'est dans cette troisième de nos quatre parties interstitielles que ça nous est dit. Elles interviennent aussi dans des combats inter-iraniens, inter-mazdéens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Comment choisir? Mitra n'intervient pas dans des conflits internes au monde iranien. Les Fravachis, elles interviennent. Pourquoi? Vous comprenez bien pourquoi elles interviennent. Elles sont les Fravachis, nous dit le texte, de la famille, du clan, de la tribu, de la nation. Elles appartiennent à une famille, elles appartiennent à un clan, elles appartiennent à une tribu, elles appartiennent à une nation. Elles sont partiales, elles peuvent se le permettre. Mitra ne se le permettra pas. Mitra ou l'Hauma ou Srausha, on lui dira, tu es le chef de famille de toutes les familles. Il n'appartient pas à une famille particulière. N'est-ce pas? Ce sont des divinités universelles parce que ce sont des personnes uniques. Les Fravachis appartiennent à un groupe social. Elles vont donc marquer une certaine partialité. Ou alors, si la partialité n'est pas possible, elles vont intervenir en fonction d'un critère rituel. Strophe 47. Celui qui leur sacrifie le premier, dit le texte, c'est vers lui que les Fravachis vont se tourner. Qu'elles vont se tourner pour l'aider. Il faut sacrifier avant l'autre. Ou bien, strophe 36, ça passait à cet endroit du texte de manière assez inaperçue, mais maintenant, nous pouvons interpréter le passage dans ce sens, elle se tourne de ce côté-là surtout, le plus, où les hommes achavan, ça veut dire les sacrifiants, ceux qui font organiser un sacrifice, se montrent le plus confiants en achat, là où on leur fait les plus grandes offrandes et là où elles sont le plus propitiées. Donc, elles interviennent soit en fonction d'une partialité sociale, parce qu'elles appartiennent à tel ensemble social plutôt qu'à tel autre, soit parce qu'un rituel leur a mieux plus qu'un autre. Hein. Les offrandes sont plus grandes, ou bien la piété du sacrifiant est plus grande. Elles vont intervenir à l'intérieur des conflits masdéens. Alors ici, une petite remarque, je voudrais l'écarter tout de suite. J'avais rédigé un petit article sur les Fravachis à l'occasion d'un colloque qui s'était tenu à l'Université de Louvain en 1887. J'avais rédigé cet article pour expliquer que, me semblait-il, Nartène avait établi de manière définitive l'identification du nom des Fravachis en tant que faculté de choix rituel. Alors, j'avais tenté aussi de donner une interprétation de la fonction des Fravachis, et justement, j'avais été sensible, j'avais noté cette partialité des Fravachis, qui leur donne une fonction tout à fait spécifique à l'intérieur du monde iranien, et j'avais défendu l'idée que, au fond, c'était là une fonction qui correspondait assez bien à leur nom, choisir. J'avais dit, oui, elles peuvent agir, contrairement aux autres divinités, par préférence. Et cela peut, d'une certaine façon, être inscrit dans leur nom. Ça, oubliez-le, je vous en prie. Je n'ai pas cité cet article jusqu'ici parce que je crois que cela, c'est une interprétation qui ne peut pas tenir. Le sens profond du verbe « var », « choisir », c'est le choix rituel, c'est pas autre chose. Hein. C'est pas la préférence sociale parce qu'on préfère sa famille à une famille, une autre famille, ou son clan à un autre clan, etc. Ce n'est pas ça dans le nom des Fravachis. Je crois que là, nous avons bien vu qu'il y avait, c'est la faculté du choix sacrificiel que les âmes humaines déjà existantes font au tout début de la cosmogonie. C'est cela qui est dans le mot. Mais par la force des choses, puisque les Fravachis sont nombreuses, puisqu'elles sont les âmes des hommes, elles appartiennent à un groupe social déterminé. Et si elles manifestent évidemment une préférence pour ce groupe social, c'est indépendamment de leur nom. Alors, donc, voilà pour rectifier les choses à cet égard. Maintenant, nous allons voir, lors de la prochaine leçon, combien ces trois fils ici vont se réunir. La fonction guerrière, la fonction de distribution de l'eau et la fonction partiale des Fravachis, car c'est elles qui vont se combiner d'une manière assez explicite, en définitive, lorsque reviendra, d'ailleurs à la suite, tout à la fin de la partie hymnique, n'est-ce pas, nous verrons les détails décisifs à cet égard. Alors, je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.